de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, le commentaire et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien, et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à tous. Bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre. Le ministère des Affaires maritimes et de la pêche et l'Agence mondiale de l'alimentation s'accordent sur la coopération iFish jusqu'en 2023. L'Indonésie reçoit 3 millions de doses de vaccin Moderna des États-Unis. Sharif Hassan demande au gouvernement d'interdire l'entrée aux étrangers pendant la pandémie. La Belgique a trouvé un patient infecté par deux variantes de COVID-19. L'Australie signale le premier décès de COVID-19 en 2021. La Chine continue d'évacuer des citoyens afghans. L'Australie a retiré toutes ses troupes d'Afghanistan. Bon, chers auditeurs, voici le journal en complet. Le ministère des Affaires maritimes et de la pêche, ou KKP, et l'Agence mondiale de l'alimentation, ou FAO, ont convenu d'étendre la coopération sur la conservation et l'utilisation durable aux pratiques de pêche dans les écosystèmes d'eau douce, ou iFish, jusqu'en 2023. Le secrétaire général du ministère des Affaires maritimes et de la pêche, Antam November, dans un communiqué à Jakarta, s'est félicité dimanche de l'approbation de l'extension de la coopération iFish par le Fonds pour l'environnement mondial. Il s'agit d'une forme d'engagement et de soutien aux efforts du ministère des Affaires maritimes et de la pêche pour parvenir à une gouvernance durable des pêches continentales. Il a expliqué que la coopération d'une valeur de 6,1 millions de dollars américains au cours des deux prochaines années vise à renforcer le cadre de gestion pour l'utilisation durable de la biodiversité aquatique antérieure afin d'accroître la protection des écosystèmes d'eau douce à haute valeur de conservation et de biodiversité en Indonésie. L'Indonésie, dimanche, a reçu 3 millions de doses de vaccin Moderna des États-Unis. Réception de vaccin via la facilité multilatérale COVAX. Le ministre des Affaires étrangères, Reto Marsudi, dimanche, a déclaré virtuellement qu'il s'agissait de la livraison de la première phase du vaccin Moderna par le gouvernement des États-Unis. Selon la ministre des Affaires étrangères, Reto Marsudi, le vaccin Moderna, basé sur mRNA, a reçu un permis d'utilisation d'urgence des agences de surveillance de médicaments et des aliments, ou BPOM, le 2 juillet 2021. Les États-Unis s'engagent à fournir 4,5 millions de doses de vaccin Moderna. Au nom du gouvernement indonésien, Retno Marsudi a exprimé sa gratitude et son appréciation au gouvernement des États-Unis pour le partage de doses avec l'Indonésie via COVAX Facility. Le vice-président de l'Assemblée consultative du peuple indonésien, Sharif Hasan, a demandé au gouvernement de prendre immédiatement une politique d'interdiction d'entrée des ressortissants étrangers en Indonésie, en particulier pendant la pandémie de COVID-19. Sharif, dans sa déclaration à Jakarta dimanche, a souligné que les étrangers qui entrent en Indonésie ont le potentiel de devenir un vecteur de propagation de la nouvelle variante de COVID-19 au milieu de la propagation de COVID-19 qui n'a pas montré de tendance à la baisse. Selon lui, cette mesure doit être prise par le gouvernement car plusieurs pays ont également imposé des restrictions à l'entrée des citoyens indonésiens dans leur pays. Une femme de 90 ans en Belgique a été infectée par deux variantes de COVID-19 en même temps. Après avoir subi un traitement, elle n'a pas survécu. La femme non vaccinée vit seule et reçoit des soins à domicile. En mars, son état de santé s'est détérioré et elle a dû être emmenée à l'hôpital OLV de la ville d'Alost. Son taux d'oxygène était bon au début du traitement. Cependant, son état s'est rapidement détérioré et est décédé 6 jours plus tard. Lorsque le personnel médical a effectué des tests, ils ont découvert que la femme avait Alpha, ou la variante britannique de COVID-19, et Beta, la variante de COVID-19 détectée pour la première fois en Afrique du Sud. La biologiste moléculaire de l'hôpital OLV qui a dirigé la recherche, Anne van Kerbergen, a déclaré que les deux variantes circulaient en Belgique à l'époque. Il est donc possible que la femme ait été infectée par un virus différent, provenant de deux personnes différentes. L'Australie a signalé dimanche son premier décès par COVID-19 en 2021 et un record de 77 nouveaux cas dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud qui lutte contre une épidémie de la variante Delta hautement infectieuse. La première ministre de l'État de Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, a déclaré que les chiffres dans et autour de la plus grande ville du pays, Sydney, qui est en confinement de 3 semaines, devraient encore augmenter dans les prochains jours. Samedi, il y avait 50 cas, le précédent record de 2021. Cela porte la récente épidémie à 566 cas. Parmi les cas de dimanche, 33 étaient des personnes qui avaient passé du temps dans la communauté alors qu'elles étaient contagieuses, ce qui renforce les inquiétudes quant au prolongement du confinement de plus de 5 millions de personnes à Sydney et dans ses environs. Le gouvernement de la République populaire de Chine continue d'évacuer ses citoyens d'Afghanistan au milieu de projecteurs des cas emportés de COVID-19. L'un des avions chinois a ramené 210 citoyens chinois de Kaboul en Afghanistan à Wuhan dans la province de Hubei. L'avion a été envoyé par le gouvernement chinois pour ramener ses citoyens d'Afghanistan chez eux, ont annoncé dimanche les autorités de l'aéroport international Tianhe de Wuhan. Le rapatriement des citoyens chinois a été effectué car la situation sécuritaire en Afghanistan continue de se détériorer. L'Australie a mis fin à l'implication de son pays pendant 20 ans dans la guerre en Afghanistan. Le pays a même retiré toutes ses dernières troupes ces dernières semaines. Rapporté par l'AFP dimanche, le ministre australien de la Défense, Peter Dutton, a déclaré que les 80 derniers membres du personnel soutenant l'Australie avaient quitté l'Afghanistan ces dernières semaines. On sait qu'en avril, l'Australie a annoncé retirer toutes ses dernières troupes en septembre dernier. Cette décision est conforme avec les États-Unis qui mettent fin à ses opérations militaires en Afghanistan. C'est tout le journal d'aujourd'hui.
We'll be right back. Chers auditeurs, bonsoir. Voici le commentaire ayant pour le titre « L'Indonésie désormais en paix à revenu moyen inférieur ». La Banque mondiale, dans les classifications des pays de la Banque mondiale par niveau de revenu 2021-2022, rapporte que l'Indonésie est de retour dans la catégorie des pays à revenu moyen inférieur après avoir été incluse dans la catégorie des pays à revenu moyen supérieur en 2019. Le revenu par habitant de l'Indonésie a diminué de 4050 dollars américains en 2019 à 3870 dollars américains en 2020. Selon le chef de l'agence de politique budgétaire du ministère des Finances, Febke Kacaribu, la crise sanitaire a un impact profond sur la vie sociale et l'activité économique mondiale. La pandémie a créé une croissance économique négative dans presque tous les pays, y compris l'Indonésie. C'est pourquoi la baisse des revenus de l'Indonésie est une conséquence inévitable. Alors, que fait le gouvernement pour relancer l'économie? Au milieu de la pression de la pandémie, le gouvernement continue de déployer systématiquement des politiques axées sur les efforts pour y faire face, à savoir en renforçant la protection sociale, en soutenant le montant des affaires, notamment en mettant en place le Programme national de relance économique. Grâce au travail acharné, le budget des revenus et des dépenses de l'État et ce programme, de nombreux avantages importants ont été ressentis par la communauté. Le Programme national de protection sociale pour la relance économique sera efficace pour maintenir la consommation des groupes communautaires les plus pauvres pendant la pandémie. Le taux de pauvreté peut être contrôlé à 10,19% en septembre 2020. Selon le Programme national de relance économique, la Banque mondiale estime que le taux de pauvreté de l'Indonésie en 2020 peut atteindre 11,8%. Cela signifie que le programme en 2020 a pu sauver plus de 5 millions de personnes de la pauvreté. De plus, c'est aussi le moteur de la reprise économique, si bien qu'il est capable de créer 2,61 millions de nouveaux emplois sur la période de septembre 2020 à février 2021. Jusqu'à présent, la pandémie n'est pas terminée. Cependant, le gouvernement continue de travailler dur sans jamais baisser les bras face à cette condition. L'augmentation des cas quotidiens de COVID-19 depuis fin juin a été rapidement répondue par des restrictions d'activité plus strictes. L'accélération des vaccins, le renforcement des 3T ou les tests, le traquage et le traitement, la discipline des protocoles sanitaires jusqu'à la fourniture de la protection sociale continueront d'être menées. Espérons que les différentes mesures prises par le gouvernement pour que la pandémie puisse être mieux contrôlée et que la reprise économique puisse bien se dérouler ramèneront le statut d'Indonésie dans la catégorie des pays à revenu moyen supérieur. Pour mémoire, cette classification est généralement utilisée par les institutions financières ou les agences donatrices internationales pour considérer les facilités d'aide financière pour chaque pays. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo choku yo shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Bonsoir, chers auditeurs. Voici l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 12 juillet 1947, la détermination de la Journée nationale des coopératives. Les coopératives sont des institutions économiques très adaptées en Indonésie en raison de leur nature sociale et familiale. Les coopératives ont été introduites en Indonésie par un fonctionnaire Pati R. Arya Wiryatmaja à Purwokerto, Jawa Central, en 1876. Il a fondé une coopérative de crédit dans le bout d'aider son peuple qui est endetté auprès des usuriers. La coopérative s'est développée rapidement et a finalement été imitée par Budi Utomo et le syndicat islamique. En 1942, le Japon occupe l'Indonésie. Le Japon a alors créé une coopérative de Kumiai. Au début, cette coopérative fonctionnait bien, mais sa fonction a radicalement changé et est devenue un outil japonais pour tirer profit et rendre les gens malheureux. Après l'indépendance de l'Indonésie, le 12 juillet 1947, le mouvement coopératif indonésien a tenu le premier congrès coopératif à Tasikmalaya dans l'Ouest de Java, initié par Muhammad Hatta. Le Congrès a établi, entre autres, le 12 juillet comme journée coopérative et a établi le Centre d'organisation coopérative du peuple basé à Tasikmalaya. L'autre information sur le monument national a été officiellement ouverte au public le 12 juillet 1975. Le monument national ou comme monument appelé Monas est un monument commémoratif de 132 mètres de haut qui a été construit pour commémorer la résistance et la lutte du peuple indonésien pour s'emparer de l'indépendance du gouvernement colonial des orientales néerlandaises. La construction du monument a commencé le 17 août 1961 sous les ordres du président Sukarno et a été ouverte au public le 12 juillet 1975. Le monument est couronné de flammes recouvertes de feuilles d'or symbolisant l'esprit ardent de la lutte. Le monument national est situé en plein milieu de la place Medan Merdeka à Jakarta Central. Ce monument est musée et ouvert au public tous les jours sauf le lundi. Finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 12 juillet 1990, le début de l'effondrement de l'Union soviétique. Le 12 juillet 1990, Boris Eltsine a choisi de démissionner du Parti communiste de l'Union soviétique. Le déclin d'Eltsine fut une catastrophe, parce que, après sa démission, la destruction de la superpuissance a commencé. Le début de la démission d'Eltsine du Parti communiste était dû à la réélection de Mikhail Gorbatchev à la tête du parti qui dirigeait en fait directement l'Union soviétique. Au cours de cette période, la réascension de Gorbatchev a non seulement été opposée par Eltsine, mais les critiques sont également venues de sympathisants de la lignée du Parti communiste. La critique des cadres du Parti communiste et d'Eltsine à Gorbatchev était différente. Eltsine voulait une démocratie totale et a changé le système communiste soviétique en un système multipartite, tandis que les sympathisants pour et dur ont rejeté Gorbatchev en raison de ses mauvaises politiques et les politiques économiques. Voyant le barrage d'attaque, Gorbatchev a choisi finalement de démissionner de son poste. En décembre 1991, Gorbatchev quitte officiellement la présidence. Immédiatement après l'annonce de sa démission, l'Union soviétique a été officiellement dissoute. Après l'effondrement de l'Union soviétique, Boris Eltsine a été élu premier président de la Russie et a régné du 12 juillet 1991 au 31 décembre 1999. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
International de Voice of Indonesia 2021. Voice of Indonesia organise à nouveau un quiz. C'est quiz international de Voice of Indonesia 2021. Gagnez des prix attractifs et des prix de consolation de Voice of Indonesia. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web www.voinews.id. Bonne chance!
Manusia biasa tak lepas dari nafsu dan dusta. Salahku duakan cinta hingga kau terluka parah. Jahatnya aku. asingku di batas ini terasa menyakitkan jiwa. Biarlah ku tebus cinta hingga matiku pun rela. Dosanya diriku, dengarlah kekasih, rapuhnya aku tanpa dirimu. Kini kapankah berakhir? Ku mohon maafmu dari kasih putih, basuhkan cahaya di seluruh tubuhku. Cintamu, oh keajaiban. Terasa menyakitkan jiwa. Biarlah ku tebus cinta hingga matiku pun rela. Dosanya diriku, dengarlah kekasih, rapuhnya aku tanpa dirimu. Kini apakah berakhir? Ku mohon maafmu dari kasih putih, basuhkan cahaya di seluruh tubuhku. Cintamu, oh keajaiban.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Salut, bonsoir, voici Mon Indonésie et pour le titre, l'Indonésie et les États-Unis discutent de l'augmentation du commerce jusqu'au vaccin. Le ministre coordinateur des affaires économiques, Erlangga Hartarto, a discuté de l'augmentation de la balance commerciale jusqu'à la vaccination avec l'ambassadeur des États-Unis en Indonésie, Sung Kim, lors d'une réunion virtuelle. La valeur du commerce entre l'Indonésie et les États-Unis est actuellement d'environ 30 milliards de dollars américains, soit moins que le commerce bilatéral entre les États-Unis et les autres pays de l'ASEAN. Erlangga Hartarto, dans sa déclaration à Jakarta, jeudi 8 juillet, a déclaré que l'Indonésie pourrait multiplier par deux ou trois la valeur des échanges, compte tenu de l'Indonésie est la plus grande économie de l'ASEAN. Il y a beaucoup de place pour le commerce des deux pays. Pendant ce temps, l'ambassadeur des États-Unis en Indonésie, Sung Kim, espère que les relations économiques, y compris dans les domaines du commerce et de l'investissement des deux pays, continueront à se développer. Il existe diverses perspectives d'investissement d'entreprises américaines attirées à l'Indonésie. En outre, Kim a déclaré que le gouvernement des États-Unis a exprimé sa préoccupation face au moment difficile auquel l'Indonésie est confrontée en raison de la pandémie de COVID-19 et ferait donc des vaccins pour aider à faire face à la pandémie en Indonésie. Selon Sung Kim, le gouvernement des États-Unis a fait don de 4 millions de doses de vaccin Moderna qui devrait arriver bientôt en sike dotre assistance technique et médicale et l'oxygène. Le gouvernement indonésien apprécie également le soutien et la fourniture de vaccins Moderna des États-Unis. Erlangga Hartarto, qui est également président du comité pour la gestion de COVID-19 et la relance économique nationale, a déclaré que le soutien au vaccin pourrait aider et augmenter le niveau de confiance des agences de santé et des personnes de première ligne. Erlangga Hartarto a ajouté qu'en répondant aux besoins de la communauté en matière de soins médicaux pendant la pandémie, le gouvernement utilise des équipements de santé provenant à la fois de l'intérieur du pays et emportés, soutenus par un assouplissement des droits d'importation. La réunion virtuelle a également discuté des perspectives de coopération en matière d'énergie renouvelable. Il expliquait que diverses ressources énergétiques renouvelables potentielles, telles que l'énergie solaire, éolienne et géothermique, existent en Indonésie. Le gouvernement encourage également l'utilisation de panneaux solaires sur plusieurs îles telles que Batam et Bintan à travers le programme solaire afin d'augmenter la demande du marché en panneaux solaires. Il a souligné que l'Indonésie est ouverte à la coopération avec les États-Unis pour accélérer la transition vers les énergies renouvelables en Indonésie. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Bonsoir à tous, retrouvons-nous dans votre rubrique quotidienne, le magazine culturel. Pour l'édition de ce soir, nous vous présentons la plage Tanjung Aan. L'île de Lombok à Nusa Tenggara Ouest offre de nombreuses destinations touristiques de plages magnifiques et étonnantes. L'une d'elles est la plage de Tanjung Aan. Vous ressentirez des choses différentes lorsque vous poserez le pied sur cette plage en raison de la texture du sable qui n'est pas habituelle à la plupart des autres plages. Le sable de la plage est généralement de petits grains fins, mais sur la plage de Tanjung Aan, les grains de sable sont des grandes formes rondes comme le poivre. Donc, les habitants l'appellent plage de poivre ou plage de farine. La plage est entourée de plusieurs collines. Vous pouvez facilement atteindre la colline pour voir de belles vues sur la plage d'une hauteur. Autour de cette plage, vous verrez plusieurs parasols en bois avec de la paix tricotée comme toit, qui est l'une des attractions de la plage de Tanjung Aan où vous pourrez vous allonger sur le parasol tout en dégustant de jeunes noix de coco qui sont vendues sur cette plage. Sur cette plage, il y a aussi un restaurant qui propose une variété de cuisine des locales et d'autres régions. La plage Tanjung Aan est située à environ 75 km de la ville de Mataram. Si vous venez de la ville de Mataram, vous pouvez utiliser un véhicule privé qui prend environ 1h30. Vous pouvez également louer une moto ou une voiture à la ville de Mataram pour rejoindre cette plage. Car si vous utilisez le transport en commun, cela ne fera que prendre du temps et est assez gênant. En plus de s'allonger et de se détendre sur un parasol en chaume, tout en profitant de la beauté de la plage, les visiteurs peuvent également nager et surfer. Car les vagues de la plage de Tanjung Aan ne sont pas trop grosses, elles sont donc parfaites pour la natation, la plongée en apnée et le surf. Et le bon moment pour surfer est l'après-midi, car à ce moment-là, le niveau de la mer commencera à monter, faisant la plage de Tanjung Aan le bon endroit pour surfer. Chers auditeurs, si vous souhaitez passer la nuit à la plage de Tanjung Aan, vous pouvez séjourner dans un hôtel ou maison d'hôtel qui est la maison d'un résident local qui sert d'auberge. Avec le hôtel, les visiteurs peuvent vivre avec le propriétaire de la maison, manger ensemble, de sorte que l'intimité est formée entre le visiteur et les résidents locaux. Chaque hôtel a un prix différent en fonction des installations offertes par le propriétaire. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À demain.
Hidup banyak cinta, namun tak pernah aku temui cinta sekuat aku menginginkan dia. Hal hebat ku rasakan kini dicintai seseorang.
International de Voice of Indonesia 2021. Voice of Indonesia organise à nouveau un quiz ce quiz international de Voice of Indonesia 2021. Gagnez des prix attractifs et des prix de consolation de Voice of Indonesia. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web www.voinews.id. Bonne chance!
Chers auditeurs, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien. Bonne écoute.
Bonsoir tous les amis, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien. Une collaboration entre Voice of Indonesia, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République de l'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Kesehatan. Je répète, Kesehatan. En français, la santé. Je vais vous donner une conversation dont le titre est Uji Usap COVID-19. Uji Usap COVID-19 signifie test d'écouvillonnage COVID-19. Bonne écoute. C'est une conversation entre Kevin et Mela par le téléphone. Kevin a demandé à Mela d'un ton dubitatif par le téléphone.
Mela, apakah ada layanan tes usap untuk karyawan dari kantor kita?
Ada, Kevin, jika ia mendapat tugas perjalanan dari kantor.
Après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Uji usap COVID-19. Uji usap COVID-19 signifie test d'écouvillonnage COVID-19. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Vous pouvez le répéter après moi. Apakah ada? Apakah ada signifie y a-t-il? Layanan tes usap. Layanan tes usap signifie service de test de couvillonnage. Untuk karyawan. Untuk karyawan signifie pour les employés. Dari kantor kita. Dari kantor kita signifie de notre bureau. Jika ia mendapat. Jika ia mendapat signifie s'il obtient. Tugas perjalanan. Tugas perjalanan signifie mission de voyage. Siapa? Siapa? Signifie qui? Siapa yang perlu tes usap? Siapa yang perlu tes usap? Signifie qui a besoin d'un test de couvillonnage? Saya. Saya signifie moi. Hari ini. Hari ini signifie aujourd'hui. Kantor. Kantor signifie bureau. Menyelenggarakan. Menyelenggarakan signifie organiser. Seluruh karyawan. Seluruh karyawan signifie tous les employés. Hari ini kantor menyelenggarakan tes usap untuk seluruh karyawan. Hari ini, kantor menyelenggarakan tes usap untuk seluruh karyawan. Signifie aujourd'hui, le bureau organise un test de couvillonnage pour tous les employés. Dans une conversation, vous écoutez l'expression test ou dit usap. Je répète, test ou dit usap signifie un test de couvillonnage. L'expression test usap signifie un test de couvillonnage. C'est une expression liée à la pandémie de COVID-19. Le test par écouvillonnage est effectué pour détecter le virus corona. Écoutons un autre exemple d'expression avec l'expression test usap. Test usap signifie un test d'écouvillonnage. Si quelqu'un demande par exemple, si y a pas yang perlu test usap? Si y a pas yang perlu test usap? Signifie qui a besoin d'un test d'écouvillonnage? Vous pouvez répondre par exemple Saya. Saya signifie moi. Hari ini, kantor menyelenggarakan tes usap untuk seluruh karyawan. Hari ini, kantor menyelenggarakan tes usap untuk seluruh karyawan. Signifie aujourd'hui, le bureau a organisé un test de couvillonnage pour tous les employés. Puis, vous pouvez répondre « Oh, begitu. » « Oh, begitu » signifie « Oh, je vois. » Avant de terminer à apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour mieux comprendre, écoutons encore une fois la conversation.
Mela, apakah ada layanan tes usap untuk karyawan dari kantor kita?
Ada, Kevin. Jika ia mendapat tugas perjalanan dari kantor.
Chers amis, voilà l'émission Apprendre l'indonésien d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourrait être utile pour vous. Merci de votre attention. Au revoir.
Chers amis, c'était la quatrième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3,3 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Bonsoir à tous. Maintenant, c'est le temps pour le magazine musical. Et je vais vous présenter une chanson croncheon intitulée Tanam Padi, chantée par Yeni Arbian. Chers amis, la chanson Tanam Padi a été créée par Espa Dimin. Raconte l'histoire de la vie des agriculteurs en Indonésie, dont l'an et la plantation de riz. Le riz est l'aliment de base de la plupart des Indonésiens. Cette chanson décrit également les rizières qui s'étendent entre les belles montagnes et les vallées, ainsi que la joie des agriculteurs qui travaillent dans les champs. Tout ce qu'ils font pour un avenir radieux. Le rythme de la chanson et l'accompagnement de la musique croncheon qui joue lentement semblent nous emmener dans une nature rurale paisible et calme. Mon cher auditeur, voici Yeni Arbian va chanter une chanson croncheon intitulée Tanam Padi. Bonne écoute. Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @boyindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook The Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.